Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci d'être venus aussi nombreux pour assister à cette rencontre avec Patrick Bensoussan, que nous sommes ravis d'accueillir ce soir. Bonsoir, Patrick Bensoussan.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Patrick Bensoussan, vous êtes pédopsychiatre. Vous dirigez le département de psychologie clinique à l'Institut Pauli Calmette, un centre régional de lutte contre le cancer à Marseille. Vous êtes auteur et co-auteur de nombreux ouvrages parus chez RS, principalement autour de questions liées à la petite enfance et à la parentalité. Toujours chez RS, vous coordonnez deux revues, Spirale, la grande aventure de Monsieur Bébé et Cancer et Psy. Et vous dirigez trois collections, me semble-t-il, Mille et un bébés, Mille et un et plus et L'ailleurs du corps. Alors, on va s'arrêter un petit peu sur l'une de ces trois collections, à savoir Mille et un bébés, car l'année 2018 est une année particulière, puisque la collection fête ses 20 ans d'existence. Vous avez créé cette collection, Patrick Bensoussan, en 1998. Alors, elle comporte aujourd'hui un peu plus de 150 titres, 157 titres, je crois. C'est une collection consacrée aux questions, aux problématiques diverses et variées liées à la petite enfance et qui a le grand mérite, c'est sa force, de proposer un éventail très large, hétéroclite et véritablement transdisciplinaire, aussi bien concernant les sujets que les intervenants. Donc la collection Mille et un bébés s'intéresse évidemment aux bébés. Mais ça intéresse aussi à tous ceux qui gravitent autour. Les parents, bien évidemment, les pédopsychiatres, les pédiatres, assistants maternels, assistantes maternelles, infirmiers, sages-femmes, obstétriciens, anthropologues. Donc c'est véritablement interdisciplinaire, où les regards, les questionnements, qu'ils soient pratiques ou philosophiques, se croisent autour de ce qu'on pourrait appeler une culture des bébés. À travers des thématiques aussi diverses que la grossesse, les psychoses, l'adoption, l'interculturalité, à travers par exemple, la thématique de l'exil, et bien sûr toutes les thématiques et les problématiques liées à la parentalité, qui sont d'ailleurs regroupées sous une collection annexe, Mille et un bébés, du côté des parents. Alors c'est une collection qui a le deuxième grand mérite d'être accessible. Elle s'adresse à tout le monde, aussi bien aux parents qu'aux professionnels. Ou même à toute personne simplement curieuse. Alors on peut, de mon point de vue, en tout cas du point de vue libraire, penser que 20 ans après, le bilan est positif. La collection que nous connaissons bien garde une place singulière dans nos rayons, sans fléchir sous les coups de vent des tendances éditoriales qui se succèdent et qui voit de plus en plus fleurir, ça ne vous aura pas échappé, je pense, toutes sortes de manuels d'éducation positive ou d'études neuroscientifiques autour de l'enfant. Et justement, j'en viens à votre ouvrage, De l'art d'élever des enfants imparfaits, donc dans la collection évidemment Mille et un bébés, qui d'une certaine manière est une réponse à cette surenchère de conseils, cette surabondance de connaissances pédagogiques et scientifiques que l'on a tous, ou à laquelle nous avons accès, en tout cas autour du bébé et de l'enfant, qui, selon vous, c'est votre point de départ, et vous le développez évidemment après, serait en fait contre-productif, nous faisant cette promesse qu'une éducation parfaite est possible, souhaitable, et qu'il suffit pour cela d'appliquer des bonnes recettes. Donc vous posez à travers ce livre un regard lucide, voire critique, vous mettez en garde un petit peu contre justement la course à la perfection, et vous nous rappelez que le métier de parent n'est pas une sinécure, que c'est un métier qui s'apprend tous les jours. Avec, en plus de ça, vous nous alertez beaucoup là-dessus aussi, en contrepoint tous les mirages un peu fantasmatiques et les projections, les promesses, tout ce que l'on peut mettre derrière aussi un enfant. Et vous reprenez d'ailleurs aussi une notion, enfin, celle du bébé imaginaire. Vous aviez déjà écrit un livre à ce sujet-là. Donc c'est un livre, voilà, qui est, enfin moi je le vois comme ça, qui est une saine respiration actuellement. Et en plus, ce n'est pas dénué d'humour. J'avoue, j'ai ri plusieurs fois. Donc on y trouve aussi une certaine dose d'humour, de dérision. Voilà, et avant de vous laisser la parole, je vais, afin de parfaire cette introduction, lire juste un petit passage de votre introduction. Ce livre est en fait un anti-manuel de parentalité appliquée. Il n'affiche ni dogme ni recette. Tout au plus, balbutie-t-il quelques simples conseils aux parents pour les aider à rater leur job de super-parents pour le plus grand profit de leur super-bébé. Vous l'avez compris, je pense très fort que les enfants imparfaits d'aujourd'hui seront les plus belles réussites de demain et que notre amour des enfants est un amour on ne peut plus imparfait.
Bon, moi je suis d'abord très ému d'être ici parce que cette ville, c'est la ville de mon enfance. J'y ai passé des années et des années. Et puis cette librairie, c'est aussi la librairie de mon enfance. J'y ai aussi passé des heures et des heures. Je l'ai vu changer incroyablement. Donc je ne savais même pas qu'on pouvait maintenant avoir une vie en dessous de la vie, en sous-sol. C'est génial. Donc voilà, je suis très touché d'être là. Je ne sais pas très bien ce que je peux vous dire de ce livre. Vous savez, j'ai un vieux présupposé qui dit que, en fait, on est peu de choses et qu'on s'inscrit dans les pas de bien d'autres qui, avant nous, en tout cas, ont avancé, cheminé. Et je suis toujours très respectueux de cette question de ce qu'on appelle la transmission. Peut-être qu'il y a d'ailleurs quelque chose à réfléchir autour de la dite parentalité et la fonction de transmission aujourd'hui. Et ça veut dire qu'on est tous traversés par des tas de mots, de paroles, de citations, de représentations qui sont très actives dans ce champ-là. Et en particulier, autour de ces questions, moi j'ai des phrases emblématiques qui me reviennent. Alors, la première, c'est une dame qui s'appelle Judith Dupont qui a écrit un livre mémorable il y a quelques années de ça, sous un pseudonyme d'ailleurs. Son pseudonyme, c'était Jeanne Vandenbroek, insolite. Et Judith Dupont, ce livre, c'était le manuel à l'usage des enfants qui ont des parents difficiles. Donc c'était un bouquin, elle écrit ça, avec une préface d'ailleurs de Françoise Dolto et dans la lignée de son travail. Et donc elle met, car n'oublions pas que si l'éducation d'un enfant prend en moyenne 15 à 18 ans, l'éducation d'un parent peut demander un demi-siècle et parfois même plus. Donc voilà, s'il fallait résumer assez globalement les quelques phrases balbutiées dans cet ouvrage, il faudrait peut-être partir de cette idée-là. Vous savez, cette idée que le monsieur Freud, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Sigmund de son prénom, reprenait sur ce qu'il appelait le métier de parent. C'est-à-dire un de ces métiers impossibles et insupportables, parce que particulièrement difficile à exercer. Et il y a un autre grand psychanalyste italien, celui-là, actuel, qui s'appelle Antonino Ferro, qui a dit dans un de ses ouvrages récents, un enfant sain est celui qui survit aux soins de ses parents. Donc marquez ça de façon biblique dans vos mémoires fraîches ou endolories, parce que cette parole, je crois qu'elle est vraiment, qu'elle résume l'entièreté de ce qui pourrait se penser. Un enfant sain est celui qui survit aux soins de ses parents. Parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, nous sommes tellement bienveillants à l'égard de nos enfants qu'on leur fait porter de drôles de poids. Alors, je continue. Allons, bon, qu'est-ce que disait le Petit Prince ? Le Petit Prince disait « Les enfants doivent être très indulgents envers les grandes personnes ». Donc vous avez une idée aussi de cette réalité, vous savez, de ce métier qu'on évoque à l'instant, on l'apprend, entre guillemets, sur le dos de nos enfants. C'est-à-dire qu'ils sont nos terrains d'expérience. Donc qu'immanquablement, on va se tromper. Et on reviendra peut-être sur une parole céleste du père Sigmund un peu plus tard. Après, il y a aussi une parole de Maurice Donnet qu'on devrait les uns et les autres réfléchir. Avoir des enfants est la seule façon d'échapper à l'ennui. Donc je vous laisse imaginer jusqu'où il faudrait peupler la réalité de nos vies pour pouvoir nous distraire un tant soit peu de la morosité, de l'inconstance du quotidien. Et puis, il y a, pour finir peut-être, cette parole mémorable de Jean-Yann. Il faut faire des enfants quand on est vieux, parce qu'on les emmerde moins longtemps. Donc si vous avez pris la mesure de ces quelques phrases, vous avez une idée de ce que j'ai souhaité développer dans cet ouvrage, à savoir, comme il était dit tout à l'heure, l'importance de... Regardez, c'était 1996, un bouquin de Badinter qui s'appelait « Le conflit », sous-titré « La femme et la mère ». Et elle raconte dans ce livre qu'un jour, elle tombe sur un article du Chicago Sun-Times dans les années 70. Il y a là un reporter, une dame qui s'appelle Anne Landers, qui fait une étude et qui poste dans le journal, à cette époque, une question en disant « Est-ce que vous referiez le choix aujourd'hui d'avoir des enfants ?» Donc elle reçoit des milliers et des milliers de réponses. Et elle en fait une étude statistique. Et de cette question, il en ressort que plus de 70% des réponses disent « Non, on ne referait pas du tout la même chose. Non, c'est bon, on a été parents une fois, ça nous a suffi, on ne recommencerait pas. Si on pouvait se la refaire, cette histoire à l'envers, ça ne serait sûrement pas ça qu'on ferait. » Donc elle est sensiblement étonnée. Et Badinter raconte que à l'époque où elle sort son bouquin, donc fin des années 90, elle tombe sur un sondage, là, sur le net. 1500 personnes en France, on pose la même question. C'est-à-dire, est-ce que vous referiez la même chose en lien direct avec la question de la parentalité des enfants, vous occuper de vos gosses, etc. Et là, 92% des internautes disent... Oui, on referait la même chose. Donc, grande question quand même, années 70, bon, aux États-Unis, années 90 en France, on n'est pas du tout d'accord. Alors, est-ce qu'il y aurait quelque chose qui aurait changé dans cette réalité? Est-ce que tout à coup, les parents des années 70 n'auraient plus rien à voir avec les parents des années 2000? Qu'est-ce qui a changé? Eh bien, ça, c'est très simple. Vous tombez sur Philosophie Magazine. Donc, Philosophie Magazine, mars 2009, le numéro, sondage, Sauffresse. Qu'est-ce que c'est qu'un enfant? Et puis, question annexe, pourquoi est-ce qu'on fait des enfants? Vous savez, il y a une expression qui commence ou qui... plutôt fini beaucoup des contes. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Et moi, j'ai vraiment cru pendant très longtemps que le « et » qui était situé là entre ces deux bouts de phrase, ils se mariaient, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, témoignait d'une coordination de disjonction. C'est-à-dire, ils vécurent heureux avant et, eh bien, entre le temps du bonheur avant et le temps d'après, peut-être que les choses peuvent aussi s'articuler comme ça, autrement. Vous savez, je me souviens d'il y a une vingtaine d'années, peut-être un peu moins, quand je faisais des conférences autour de cette question de la parentalité. À un moment, je disais très habituellement que, immanquablement, en tant que parent, voire en tant que professionnel, on avait eu envie, à un moment donné, de foutre le bébé par la fenêtre. Avec la baignoire, l'eau du bain et tout ce qui va avec. On avait eu envie, à un moment ou à un autre, de déposer, en partant au travail le matin, son bébé à la DAS. On avait eu envie, enfin, des choses de ce type-là. Et le mari, non mais là on ne parle pas des maris, on parle des enfants. Mais pourquoi pas? Et je me souviens qu'à l'époque, en tout cas, quand j'évoquais cette question, immanquablement, je demandais aux personnes qui étaient là, qui dans la salle n'a pas eu cette idée à un moment donné de sa vie. Vous savez, je poussais même parfois à l'extrême en reprenant le bébé de Monsieur Topor, qui était un grand humoriste un peu noir, il y a quelques bonnes dizaines d'années, et qui a écrit un livre autour de la vie donc d'un bonhomme, et en particulier qui a un enfant, et que cet enfant lui prend tellement la tête avec ses cris que son rêve, c'est de s'en servir de heurtoir pour le plaquer sur la porte et qu'on puisse régulièrement le taper pour demander à entrer, quoi. Là, c'était un peu audacieux. Mais bon, eh bien, immanquablement, sur l'entièreté des personnes présentes, quand je posais cette question, vous pouviez être sûr qu'il y avait très, très, très peu de mains qui se levaient pour dire « moi, je n'ai pas eu envie de le faire ». Donc, tout le monde était à peu près d'accord sur cette idée que tout parent, voire professionnel, avait été traversé à un moment donné de sa vie et de son existence par cette assurance que si on pouvait le ramener à la maternité, le petit, ça serait peut-être pas mal. Je peux vous assurer que ces dernières années, je fais non pas à peu près la même conférence, mais que je reprends les mêmes questions sur la parentalité et que parfois, je m'essaie à reposer cette question. Je dois vous dire que ces derniers temps, je réfléchis à pouvoir m'acheter un garde du corps. Parce que les quelques mains qui se levaient à l'époque pour dire « non, horrifié, c'est pas possible », on n'a jamais pensé ça, nous. D'ailleurs, très régulièrement, je conseillais à ces personnes de venir me voir à la fin de la conférence pour que je leur conseille le nom d'un confrère de qualité. Eh bien, aujourd'hui, les mêmes questions posées, il y a devant moi des centaines de mains qui se lèvent pour dire « mais jamais je n'ai pensé quelque chose comme ça ». Et si je pousse un petit peu vers Topor, mais Topor, j'en parle plus jamais maintenant, parce que c'est... Mais si je pousse un petit peu, c'est terrible ce que les gens en face de moi reprennent et puis me regardent avec des yeux comme si vraiment c'était honteux, que c'était impossible, que vraiment il n'y avait que des psys qui pouvaient penser des choses pareilles et que, bien entendu, on n'a jamais, mais au grand jamais, de tels désirs à l'égard de son enfant. Mince, qu'est-ce qui a changé en 20 ans? Pourquoi est-ce que de 2 ou 3 mains, on se retrouve à 500 mains? Pourquoi autant de personnes qui, aujourd'hui, sont assurées que simplement penser qu'on se débarrasserait bien du niard est une ignominie? Le politiquement correct, je ne sais pas. Cette assurance, en tout cas, que c'est inimaginable. Et pire que ça, la question, par exemple, de... Ça, c'est un mot terrible, hein, ne frémissez pas trop. La haine à l'égard de l'enfant. Ça, c'est quelque chose dont il ne faut absolument pas parler. C'est impossible à envisager.
Il est légalement interdit de taper ses enfants.
Tout à fait. Légalement interdit. Mais bon, donc vous voyez, c'est ça un petit peu qui était la question qui suivait comme une trame ou un fil rouge l'entièreté de ses pensées et de cet ouvrage. C'était, mais comment est-ce qu'on peut expliquer ces transformations? Si fait est qu'elles sont vraiment des transformations. Dans le même temps, le propos qui était revenu en retour, c'est que les relations parents-enfants se sont merveilleusement pacifiées. Les parents d'aujourd'hui sont au plus près de leurs enfants, attentifs et bienveillants. Les pères sont présents au quotidien. Les mères vivent leur vie émancipée. Je cherche désespérément à trouver quelques qualificatifs du même genre qui témoignerait d'un tableau merveilleusement angélique des relations parentales d'aujourd'hui, comme si le conflit, entre guillemets, n'existait plus.
J'entends bien le propos par rapport à la parentalité et tout ça. Il y a aussi des façons de gérer les conflits qui peuvent du coup être effectivement les façons plus pacifiques que ce qu'on a pu avoir précédemment. Alors, est-ce que gérer des conflits de manière pacifique, est-ce que c'est nier les conflits ou est-ce que c'est au contraire les prendre à bras le corps et en faire quelque chose de différent ? Enfin, là, je vous pose une vraie question. Hein. J'attends une réponse.
Donc, c'est quoi votre question ?
C'est est-ce que apprendre à gérer les conflits, c'est la même chose que dire qu'il n'y a pas de conflit ?
Bon, vous en pensez quoi ? Vous savez, il paraît que les psys ont toujours l'art pour reformuler les questions. Ou en tout cas faire en sorte que ce soit d'autres qui y répondent. Et dans les autres, il y a surtout ceux qui eux-mêmes les ont formulés. C'est un vieux reste talmudique de l'enseignement psychiatrique ou psychanalytique. Il faudrait d'abord qu'on puisse savoir si... Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de choses comme ça. Ça s'appelle le développement personnel. On apprend à gérer les conflits. Juste cette petite phrase que vous avez prononcée. Est-ce que ça s'apprend à gérer les conflits ? Ou est-ce que c'est autre chose qui s'apprend ? Est-ce qu'on apprend de soi ? Est-ce qu'on comprend quelque chose de sa vie, de ce qu'on fait, de ce qu'on est, d'où on vient, de là où on va ? Enfin, des tas de questions comme ça qui correspondent plus, non pas à des éléments de développement personnel, mais de recherche personnelle. C'est-à-dire, est-ce que, immanquablement, tout enfant vient confronter son parent à une somme de questions inimaginables. C'est-à-dire que quand on a un enfant, on n'a jamais imaginé tout ce qui allait se réveiller comme, un, histoire ancienne, et deux, projection dans le futur. Donc on est à une place proprement intenable, parce qu'on est totalement pris par notre passé, des fois agi par notre passé, aliéné. C'est-à-dire qu'on fait des choses... Ben, en gros, parce qu'on a été conduit, on a été bercé, on a été cultivé dans cette histoire-là, dans cette éducation-là, dans cette culture-là. Et que du coup, elle fait partie de nous. C'est ce qu'on est. Donc, on réagit comme ça. Et on est aussi plein de désirs, de façon d'anticiper, de construire des tas de choses par rapport au lendemain dont on veut être assuré qu'ils vont chanter. Mais ça, on n'en sait proprement rien. Donc l'idée de est-ce qu'on peut apprendre à gérer les conflits, je trouve que c'est très difficile comme proposition. Enfin, moi, j'en suis incapable. Je suis incapable d'apprendre à quelqu'un à gérer ses conflits avec telle ou telle personne, et d'autant avec un enfant. Je peux l'aider à comprendre quelque chose de ce qui, dans ce conflit-là, s'anime, se réveille, se met en scène, enfin, allez savoir, on peut trouver des tas de mots. Mais je ne sais pas du tout si c'est ça. Et aucunement, en tout cas, il me semble que je pourrais lui donner un outil qui l'aiderait à résoudre ce conflit. Je pourrais peut-être l'aider à comprendre quelque chose. Oui. De ce qui, tout à coup, fait que conflit il y a, par exemple. Je ne suis pas certain que ça résolve le conflit. C'est bien, ça. Oui, il faut discuter, c'est tout. Ça, la parlotte, quoi.
Est-ce qu'on pourrait aussi peut-être s'entendre sur le mot conflit ? Et que peut-être aujourd'hui, ce qui manque, c'est l'occasion... à travers le conflit, de se rencontrer et peut-être de se parler, de discuter, quoi. Moi, je suis assez d'accord avec ça. Et que peut-être c'est le conflit qui peut structurer un discours, prendre conscience de ce qui se passe entre nous.
Bien sûr.
Hein, ouais. Voilà. Et que ça peut aider à grandir quand même un peu. Et peut-être qu'aujourd'hui, finalement, entre un parent et un enfant, il y a peut-être un peu moins d'occasions de se rencontrer, peut-être même sous l'occurrence du conflit, que dans les années 70. Et que la question de la parole est plutôt devenue un outil de slogan qu'un outil de pensée, quoi. Peut-être que ça peut être ça aussi.
Et il y a des moments, faut arrêter. Vous savez, c'était le modèle de Dolto, hein, avec son bouquin Tout est langage et tout ça, ce qu'on lui a reproché. Mais vraiment, incessamment, c'était cette idée qu'il fallait toujours parler avec les enfants. Et donc, d'expliquer les choses, de les reprendre, de mettre des mots, etc. etc. Ce qu'elle n'a jamais dit, hein. Mais aucunement et de façon explicite. Hein. Elle a beaucoup parlé des actes parlants. Hein. Il y a cet exemple magnifique, hein, qui est repris dans un ouvrage. C'est cette idée, à un moment donné, elle est convoquée à l'école pour sa fille, donc Catherine. Donc la fille a 5 ans et demi ou 6 ans. Et donc elle est convoquée, elle se rend à l'école parce que la maîtresse et la directrice veulent les voir. Et tous les deux donc rencontrent la mère Dolto pour lui dire que vraiment ça ne va pas du tout. Parce que la petite Catherine, donc 5 ans et demi, 6 ans, a écrit à la craie sur le mur de l'école « Merde ». Et donc ça, c'est pas possible, quoi. Et donc la mère Dolto dit qu'à ce moment-là, c'est Catherine qui raconte, à ce moment-là, elle a regardé sa fille, elle a applaudi et elle a dit « Bravo ma fille, tu sais écrire ». Donc imaginez la scène aujourd'hui, hein, en 2018, vous pouvez être sûr que, enfin, il y a une plainte des enseignants, d'emblée vous avez retrait, grève, enfin tout ce que vous voudrez, quoi. C'est même pas imaginable. Et donc, elle continue en racontant qu'elle sort donc de l'école et sur le chemin pour rentrer à la maison, elle s'arrête devant un tabac papeterie. Et elle rentre, elle achète un cahier. Et elle donne le cahier à sa fille. Et puis, il rentre à la maison. Il y a un monsieur qui s'appelle Racamier qui dirait que c'est un acte parlant. Elle n'a rien dit. Hein. Elle n'a pas dit, oh, tu sais, ma belle, c'est pas bien d'écrire sur les murs des écoles. Regarde, je t'achète un cahier, tu vas écrire dans le cahier maintenant que tu sais écrire. Non. Elle a juste montré à sa fille son attention, sa bienveillance, son intérêt. Tu sais écrire. Et puis après, elle a fait un acte. Elle est allée lui acheter un cahier. Et en lui donnant ce cahier, la petite, bien entendu, a compris aussitôt. C'est dans un cahier qu'on écrit, pas sur les murs. Mais ça s'est passé sans mots, c'était totalement explicite en soi. La résolution des conflits que vous évoquez là, peut-être que c'est ça aussi. Parfois c'est des actes parlants. Mais ça veut dire que... Ah, voyons, qu'est-ce que disait Aldo Nauri? Disait que la fonction première du père, c'était de dire non, non, non. Et je me souviens qu'au cours d'une rencontre qui nous réunissait, j'avais tenté que la fonction du père première, c'était de dire oui, oui, oui. Parce qu'avant de dire non, 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 il a fallu dire oui, oui, oui. Sinon, non, non, non est inaudible. Donc peut-être que ce qu'elle dit, c'est le lien, l'alliance, l'encouragement. C'est quoi la psychologie positive, quoi ? C'est bien mon enfant. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des tas de travaux qui vous disent « Mon Dieu, c'est extraordinaire, on a mesuré l'activité des centres nerveux et neuronaux, et en particulier certaines structures qui sont là à clignoter de partout quand on complimente un enfant. » Et à l'inverse, quand on lui dit des mauvaises choses, quand on le diminue, qu'on lui dit des insultes ou autres, et on se rend compte que ces espaces-là sont beaucoup moins stimulés et peuvent entraver certains aspects du développement de l'enfant. Génial quand même. Hein, il aura fallu la neuroimagerie et les études fonctionnelles pour pouvoir savoir ça. Que c'est quand même un petit peu mieux de dire mon beau que ma saleté. C'est quand même assez fort, quoi. Mais bon, vous savez qu'il a fallu attendre les années 1990 pour que les Japonais, dans une étude, puissent montrer que les nouveau-nés connaissaient la douleur. Parce que jusque-là, on pensait que les tout-petits ne ressentaient pas la douleur comme les enfants plus grands. Et donc, ça a autorisé pendant des années, voyons, des parasynthèses, couper le frein de la langue, des phimosis et des tas de choses, sans du tout de prise en compte de la douleur, sans anesthésie, etc. Mais grâce aux Japonais, on a pu, à partir des années 90, savoir que les tout-petits souffraient. Ce qui est quand même un truc incroyable, quoi, parce que toutes les mamans du monde savaient très bien que leur enfant avait mal, je ne sais pas, à un moment donné, quand elle le portait, quand il y avait quelque chose qui se passait, quand il y avait l'épingle à nourrice qui les piquait, quand on remettait un linge, ou je ne sais trop, quoi. Donc on a l'impression qu'il faut rappeler des choses qui sont simples et vieilles comme le monde. Mais peut-être que certains de ces éléments, c'est ça, c'est-à-dire que les enfants ont besoin de la présence bienveillante d'un autre auprès d'eux, et que ça, c'est quelque chose de capital. Et cet autre-là, il a aussi à, arrêter la parlotte, vous disiez, mais à poser un cadre et des limites. Et donc, il faut qu'on trouve un espace entre ces deux aspects. C'est-à-dire qu'il y a nécessité de pouvoir transmettre quelque chose de notre attention, de notre intérêt à l'égard de l'enfant, de notre bienveillance. Et puis dans le même temps, il y a aussi quelque chose qui parfois nous dépasse, qui parfois est même difficile et douloureux, qui est de dire les choses, de s'y tenir, de les respecter. Et ça, c'est vraiment pas simple. Et de plus en plus aujourd'hui. On a découvert, par exemple, les voyages en train dans l'harmonie la plus totale depuis quelques années. Jusque-là, vous aviez toujours des petits mouflés qui couraient de partout, qui criaient, qui parlaient, qui faisaient un boucan d'enfer. Maintenant, vous n'entendez plus rien dans les trains. Parce qu'ils sont tous plantés devant leur écran ou leur tablette. Il n'y a plus un bruit. Je me souviens qu'il y a quelques années là, un obstétricien disait que la grande transformation des maternités, ça avait été la péridurale. Pourquoi ? Parce qu'on n'entendait plus les femmes crier. Et que depuis, c'était le grand silence dans les maternités. Donc vous voyez, les techniques et les progrès nous ouvrent à des mondes nouveaux. Moi, j'ai vu des tas d'enfants qui arrivaient avec des parents, mais comment c'était, nervous breakdown. Aujourd'hui, vous savez, on a développé cette idée-là. L'épuisement, le burn-out parental, maternel. Donc des parents qui arrivaient, mais qui n'en pouvaient plus. Parce que leur petit avait 2 mois et demi et qu'il ne faisait pas ses nuits. Moi, à chaque fois, j'ai du mal avec ce truc. Donc je prends sur moi, je maîtrise le contre-transfert, je suis attentif. Parce que je me souviens de ma propre grand-mère, qui disait au moment où j'ai eu mon premier fils, eh ben mon gars, tu vas voir, ça va pas être facile pendant quelques mois, quoi. Et puis elle me tapait sur l'épaule, dans le style, bon courage. Et il y avait quelque chose qui était une espèce d'assurance transmise comme ça de génération en génération, comme quoi ça allait pas être de tout repos. Le temps que l'enfant prenne ses rythmes, arrive à trouver un équilibre, une homéostasie au niveau de ses grandes fonctions, que ça allait être un peu compliqué, que ça risquait de durer un petit peu, que parfois on avait de la chance, mais que des fois, on en avait moins. Mais c'était la vie. Et puis, en gros, c'était un peu comme une espèce de rituel, quoi. C'est-à-dire que, voilà, c'était un rite d'initiation à la fonction parentale. C'est-à-dire que tu ne vas pas faire exactement tout ce que tu avais fait jusqu'à maintenant. Et puis après, tu allais peut-être devoir te réveiller la nuit et veiller ton enfant parce qu'il a la fièvre ou qu'il est malade. Et puis après, tu vas peut-être t'inquiéter quand il ne sera pas... Enfin voilà, ça faisait partie du lot de ce qu'on appelait devenir parent. Donc on était non pas vaccinés, mais en tout cas... On partageait quelque chose de cette réalité-là. Je peux vous assurer que le nombre de parents qui viennent en consultation pour s'inquiéter des troubles du sommeil de leur enfant à 2 mois et demi, il y en a beaucoup. Donc ça, ce n'est pas un conflit. Hein. On ne les aide pas à gérer un conflit, mais il faut bien en faire quelque chose. Hein. Le pire, c'est quand même le minot de 17-18 mois. Vous savez, il y a un psychologue québécois qui s'appelle Tremblay, qui a fait une étude sur l'histoire de vie d'un sujet et qui a enregistré des milliers et des milliers de vidéos dans des crèches, des jardins d'enfants, des lieux d'accueil de la petite enfance, etc., sur des milliers et des milliers d'enfants, et qui en est arrivé à cette conclusion que le calcul de l'acmé de la violence dans l'histoire de vie d'un sujet humain, c'est quel âge ? C'est-à-dire que le moment dans une vie où on est le plus violent, entre 3 et 4. Voilà, je vous aide parce qu'on est en train de parler des petits et tout, donc vous voyez à peu près, en gros, on a quand même l'idée que c'est à l'adolescence que ces trucs-là se passent. Hein, que, eh bien, pas du tout. Hein. Lui, il a chiffré ça entre 17 et 19 mois. Donc je ne sais pas comment il a fait, hein, mais bon. L'idée, c'est quand même que quand vous regardez, je ne sais pas, une vidéo un peu accélérée de ce qui se passe sur une journée dans une, entre guillemets, section de crèche, vous n'allez pas en revenir. Parce qu'ils se montent dessus, ils s'arrachent la gueule, ils se tirent les trucs, ils se tapent, ils se poussent. Pour aller de là à là, s'il y en a 3 au milieu, ils passent par-dessus. Enfin, c'est ça, la réalité du quotidien. C'est pas « excuse-moi, je fais un détour » et « s'il te plaît, est-ce que tu peux me prêter la petite voiture ?» C'est c'est comme ça que ça se passe. Et donc là, le nombre de familles qui viennent aussi, hein, en disant « on ne supporte plus ». Le nombre de parents, par exemple, qui s'est multiplié ces derniers temps, incroyable, sur cette idée, vous savez, cet enfant qui a un âge de son développement commence à prendre les affaires et les foutre par terre. Tout petit, hein, mais dans un espèce de jeu, à la fois du contrôle et puis du lien à l'autre, pour que ce soit l'autre qui ramasse, qui lui redonne, et puis lui, il se marre, il rebalance, et puis ça recommence, quoi. Mais pour certains parents, c'est très difficile à supporter. Ils se foutent de notre gueule. C'est quand qu'il va arrêter ? Des choses comme ça, quoi. Donc vous savez quand même que la capacité d'interprétation parentale, c'est phénoménal. Parce que vous avez un petit enfant qui va se mettre à pleurer. Donc vous allez avoir son parent qui va penser « oh là là, il a faim ». Et hop, qui va lui amener un biberon ou « maman va le prendre au sein ». Et puis vous avez un autre qui va penser « oh là là, il a un problème, il a mal, il est malade ». Et donc il va courir vers son enfant pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe, quoi. Vous avez un autre qui va penser « Ah, ce coquin, il a encore envie que je vienne pour jouer un peu avec lui et le prendre dans les bras. » Et puis qui va y aller et qui va être comme ça dans un moment d'interaction ludique, par exemple, avec son enfant. Et puis vous avez un autre ou une autre qui va penser « Mais s'il n'arrête pas de pleurer, celui-là, je l'éclate contre le mur. Mais qu'est-ce qu'il a tout le temps à vouloir pleurer ?» Et vous voyez que ces quatre-là, ne croyez pas, comme dans l'histoire des 3 petits cochons, que ce sont 4 séparés. C'est que nous tous, nous sommes ces 4-là en même temps, à des moments différents de notre journée, de notre vie, de notre histoire avec cet enfant. Donc on a aussi à faire avec ça, avec celui ou celle qu'on est à un moment donné, en fonction de nos problématiques du moment. Est-ce que c'est difficile pour nous à ce moment-là ? Est-ce qu'on vient de sortir d'une réunion épuisante ? Est-ce qu'on n'en peut plus, etc. Enfin. Je me souviens d'un obstétricien qui travaillait dans un centre de diagnostic anténatal et qui, en particulier, faisait des interruptions médicales de grossesse. Et il racontait qu'à la fin de la journée, quand il rentrait chez lui, il y avait vraiment 2 façons complètement différentes d'être accueilli par ses enfants. Donc quand il rentrait, eh bien, il y avait des fois où les enfants couraient pour le prendre dans leurs bras et d'autres fois où les enfants restaient dans le salon complètement en retrait, voire reculés. Et puis c'est au bout d'un certain temps qu'il s'est rendu compte en fait qu'il y avait des jours où il était complètement débordé par ce qu'il venait de faire dans sa journée en termes d'intervention et qu'il était vraiment pas bien, quoi. Et quand il rentrait, il y avait un hall d'entrée et puis on ouvrait une porte du hall et on rentrait dans le salon. Et donc quand il rentrait, quand il était débordé par tout ça, il rentrait dans le hall et puis il ouvrait la porte et il rentrait dans le salon. Et donc ses enfants le voyaient arriver avec son chapeau et son cartable dans le salon. Aussitôt, il se tirait en arrière. Et les autres fois, quand les choses se passaient à peu près bien dans sa journée ou quand il avait eu le temps de digérer ce qui s'était passé, il rentrait dans le hall, il enlevait son chapeau, il posait son sac, il ouvrait la porte et il rentrait dans le salon. Et là, les enfants voyaient, entre guillemets, un autre père. Et celui-là, il lui fonçait dans les bras et ils avaient comme ça des réactions qui étaient sensiblement différentes que le premier, dont ils avaient intégré qu'il valait mieux pas trop le déranger à ce moment-là. Il fallait mieux lui laisser le temps d'arriver. Les enfants étaient tout petits. Ils avaient moins de 3 ans tous les deux. Donc, les enfants sentent des choses. Vous savez, on dit ça. Enfin, les neurobiologistes vous le diraient mieux que moi, mais simplement, de façon vulgaire, hein, on dit que quoi, que ce sont des éponges sensorielles qui pigent les choses de façon comme ça, très instinctive, entre guillemets, si fait est que ça existe. Mais il y a là quelque chose de capital dans la rencontre avec l'autre. C'est-à-dire que les enfants sont aussi capables très tôt d'identifier un certain nombre de ressentir. Regardez, aujourd'hui, on est en train d'essayer de mettre en place des tas de nouvelles formulations autour de l'empathie. La capacité d'identifier les émotions de l'autre, de pouvoir en ressentir quelque chose, en comprendre quelque chose. Et donc, il y a même des nouveaux jeux pour permettre aux enfants de comprendre qu'est-ce que c'est l'empathie, d'être plus empathique. Des tas de techniques pour apprendre l'empathie, c'est-à-dire reconnaître les émotions de l'autre, comme si c'était quelque chose qui devenait difficile. Qu'est-ce qui a fait que ça soit difficile? Est-ce que biologiquement les enfants d'aujourd'hui ou les parents d'aujourd'hui auraient changé? Est-ce qu'il y a eu des transformations tout à coup au niveau de ce qui fait l'essence même de la biologie, de nos corps et de nos pensées? Moi, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que je vois aujourd'hui, c'est de plus en plus d'interrogations, de sollicitations anxieuses de la part des parents par rapport à leur enfant. Mais regardez tous les livres qui paraissent aujourd'hui, les émissions, les journaux, les rencontres, les débats autour de ces questions de parentalité. Comme si cette habituelle sollicitation anxieuse autour des enfants et de la parentalité trouvait un écho incroyable dans notre société. Alors les sociologues vous expliqueront ça assez simplement. Ils vous diront en gros, il y a quelques dizaines ou centaines d'années, les familles étaient pléthoriques. Vous aviez 5, 6, 10 enfants par famille. Et si vous en ratiez un, ce n'était pas un problème. Parce qu'il y en avait toujours 5 ou 6 pour rattraper. Aujourd'hui, vous en avez un, voire 2. Donc celui-là ou ces deux-là, vous n'avez grandement pas intérêt à les rater. Aujourd'hui, on vous dit que le monde est complexe, difficile, terrible. Vous savez que dans les années, fin des années 90, il y a eu une espèce de mutation anthropologique incroyable. Quand on interrogeait les générations, toutes disaient qu'elles étaient assurées que pour leurs enfants, les choses se passeraient mieux que pour eux. La vie serait plus facile pour leurs enfants par rapport à ce que eux, ils avaient vécu. Donc on inscrivait les enfants dans un projet de développement bienheureux. Et donc, ça, ils avaient de la chance, en gros, de pouvoir arriver dans ce monde. Et puis, dans les années 2000, ça s'est totalement renversé. C'est-à-dire que quand vous interrogiez les générations, tout le monde vous disait « on est inquiet pour l'avenir de nos enfants ». On est inquiet pour ce qu'ils vont devenir. On s'inquiète de la planète qu'on va laisser à nos enfants. On s'inquiète de leur modèle éducatif, de la transmission de nos valeurs qui tout à coup est en panne. Et donc, tout le monde dresse un portrait, mais pas noir, mais très gris, du futur dans le monde que vont habiter nos enfants. C'est compliqué aussi ça. C'est-à-dire de construire l'avenir des enfants de demain sur une représentation qui est la nôtre, hein, qui est pessimiste, péjorative. Ça va être plus difficile pour eux. On a créé les conditions de la difficulté à venir. Donc c'est aussi très culpabilisant. Et dans le même temps, vous voyez, peu d'enfants, des façons très différentes de gérer les choses, avec simplement l'accélération, l'emportement autour de vous. Les techniques, les progrès actuels, hein, avec le visuel qui se développe beaucoup, les écrans à longueur de temps, l'impact donc non estimé de ce que ça fait sur le développement d'un enfant. On est aujourd'hui quand même dans un déni, mais incroyable, dans cette assurance que « mais non, ça a aussi des bons côtés, etc. etc. » Quand vous avez des statistiques qui sont quand même affolantes, hein, sur le fait que les enfants de moins de 15 ans passent entre 4 et 8 heures devant leur écran par jour, et que les petits-enfants de moins de 3 ans peuvent passer jusqu'à 2h30 devant des écrans. C'est un truc quand même qui est... Enfin, il faut arrêter, quoi. Aujourd'hui, vous êtes enthousiaste quand vous avez un petit-enfant de 9 mois qui prend le téléphone de son papa ou de sa maman et qui est capable, vous savez... de faire comme ça avec le doigt, et puis de pointer sur une des icônes et de, par exemple, faire défiler des photos. Tout le monde est là, il est super intelligent, mais oh, il sait faire ça tout seul, il a tout juste 9 mois. Alors que c'est une connerie monumentale, enfin, c'est rien à faire ça, c'est vraiment très très simple. Donc ça aussi, ça questionne beaucoup. Donc on est dans une rencontre aujourd'hui avec un monde dont nous ne savons pas grand-chose. Et dans le même temps, immanquablement, ça soulève un nombre de peurs infinies. Vous savez, on a presque oublié quand même qu'il y a quelques générations, c'était quoi, 40, 42 ans, la durée moyenne de vie. Aujourd'hui, on est à peu près au double. Donc vous vous rendez compte, hein, il faut respecter le dicton de Jean-Yann. Hein. C'est-à-dire que quand on a des enfants, on en prend pour perpète, quoi. En gros, ils naissent, c'est quoi l'âge de naissance d'un enfant? C'est 30, quelques mois, 30 ans. Donc si vous vivez jusqu'à 80 et quelques, vous avez 50 ans avec le niard en face de vous. Quand vous creviez vers 30 ans, 40 ans, ben, ça va, hein. En gros, vous viviez le temps d'une génération avec votre enfant, une vingtaine d'années au grand max. Aujourd'hui, il y a cette constellation quand même incroyable où vous avez des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents qui sont présents en même temps dans la vie d'un enfant. Ce qui est une vraie révolution dans l'histoire de ce qui est de la parentalité. Ça n'a jamais existé, ça. C'est vraiment le XXe siècle qui l'a fait naître. Donc on se rend compte qu'il y a des tas de choses, mais complètement incroyables, qui se passent aujourd'hui. Je passe sur les réalités des fécondations d'aujourd'hui, des couples d'aujourd'hui, et de tout ce qu'on voit transformer de façon complètement active et incroyable le réel de notre famille viennoise bof du XIXe siècle, qui n'a plus grand-chose à voir avec les familles d'aujourd'hui. Donc c'est un peu compliqué tout ça. Et donc, immanquablement, tous les parents d'aujourd'hui, confrontés à cette complication, sont pris dans un double mouvement. À la fois, ils sont totalement inquiets par rapport à leur enfant, dont assurément ils pensent que ça va être plus dur pour eux. Donc il faut qu'ils arment plus les enfants. Parce que la vie est un combat. Donc il faut qu'on leur donne plus de moyens, plus de capacités, une meilleure bouffe, de meilleurs produits culturels, etc. Toujours plus. Un modèle, là encore, d'emportement, qui devient une nécessité par rapport à ce qu'on entend continuellement autour de soi. Et puis, cette idée-là, c'est aussi corrélé dans le même temps à ce qu'aujourd'hui on peut les uns et les autres voir au quotidien, en temps réel, du monde qui nous entoure. Et bien entendu, on oublie très très vite les famines, les violences, les morts, les enfants qui n'ont pas d'eau ou qui n'ont pas d'école, pour se souvenir exclusivement de ceux qui ont des vies extraordinaires, magnifiques, dont on aurait rêvé, même si. Et c'est aussi un élément particulier, cette idée-là que on partage à l'empan de la planète aujourd'hui, mais des choses inouïes en temps réel. Et ça aussi, ça complique la vie. Donc on cherche par tous les moyens à faire en sorte que nos enfants soient ceux qui vont arriver à se débrouiller demain, le mieux possible. Pas simplement pour avoir notre quart d'heure de célébrité, comme le disait l'autre, mais aussi pour être assuré que dans cette transmission qu'on espère, ils vont arriver à trouver une place. Et que comme les lendemains ne vont pas assurément chanter, il faut qu'on leur en donne aujourd'hui les moyens. Alors on va tout faire pour eux. On dit ça, habituellement. Avec tout ce que j'ai fait pour toi. Mais ça, c'est plus dans le ton du reproche. Vous savez, il y avait cette conférence que Freud avait notée, avait donnée, et qu'on reprend très habituellement partout, hein, où à la fin de la conférence, il y a une dame qui vient voir Freud et qui lui dit « Monsieur, dites-moi comment je pourrais faire et au mieux pour mon enfant. » Et Freud répond à cette personne « Mais madame, faites, en gros, faites comme vous voudrez, quoi. De toute façon, vous ferez mal. » Et tout le monde est resté sur cette notion très culpabilisatrice de ce propos. C'est-à-dire, en gros, de toute façon... tous les parents ne peuvent que mal faire. Donc, c'est que, de toute façon, c'est tous des mauvais parents, quoi, en gros. Donc, débrouille-toi avec ça, quoi. Mais, en fait, quand on est attentif, là encore, à cette formulation, et vous savez, le « et » de tout à l'heure, ils eurent beaucoup d'enfants, et, enfin, on pourrait entendre aussi « faites, en gros, comme vous voudrez », comme étant un modèle, peut-être, simplement d'autorisation. C'est-à-dire ce que disait Lévi-Strauss, que la vie est un bricolage, donc on bricole. Donc en gros, le propos de Freud, c'était mais faites ce que vous avez à faire, faites comme vous pouvez, essayez de faire quelque chose, quoi. Virgule, mais soyez suffisamment bienveillante à l'égard de vos enfants, parce que ces salmums sont ingrats, et que de toute façon, ils trouveront toujours quelque chose à vous reprocher, en vous disant que vous n'avez pas bien fait, pas assez fait, pas fait au bon moment, etc. etc. Donc, ce n'est pas tant le parent qui fait mal que le reproche fait aux parents d'avoir mal fait. Et ça, ça fait partie du développement de tout enfant, cette nécessité à un moment donné de mettre en doute les capacités parentales, même de les attaquer, d'essayer de les détruire, de voir si le parent il est toujours là, solide. S'il ne s'est pas barré, c'est un grand moment de l'adolescence, par exemple. S'il tient, malgré tout. Ce que disait Winnicott, vous savez, hein, quand on lui demandait quels étaient les conseils par rapport à l'adolescent, il disait « Vous avez accouché d'un ange et vous récoltez une bombe. » Et que la seule chose à faire, c'était quoi ? C'était Bettelheim qui le disait, hein, survivre. Et Bettelheim rajoutait quand même, virgule, intact. Parce que dans le intact, c'est quand même pas anodin, quoi. Donc vous voyez cette idée que ben, il faut à la fois consentir, c'est-à-dire la parole freudienne qui serait une autorisation à faire, allez-y, faites. On a fait un sondage de Astrapi, vous savez, qui est un journal pour les petits-enfants, donc autour de 8 ans en gros. Et on leur a demandé qu'est-ce qui est important par rapport à toi et à ton parent. Donc vous savez ce qu'ils ont répondu dans Astrapi, ils ont répondu ce qui est important, c'est de pouvoir passer du temps avec son parent. Ça, on est tous à peu près d'accord sur ce truc-là. Hein. C'est tout le temps l'idée de pouvoir passer du temps. Mais tout de suite après, venez, il y a toujours des litotes dans les phrases, hein, à faire quelque chose avec eux. On retrouve le modèle des actes parlants et toutes ces choses-là. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est qu'on fasse quelque chose ensemble. Pas simplement qu'on soit ensemble, mais qu'on réalise quelque chose ensemble, de concret, quelque chose de matériel. Et essayez de vous rappeler, hein, les uns et les autres, vous allez voir les souvenirs de quand vous étiez enfant, vous allez voir que immanquablement, c'est des choses que vous avez fait avec un tel ou un tel qui va vous revenir. Du coup, vous allez vous souvenir de la personne, mais plus de la réalité, de ce qu'ensemble vous avez pu construire. Cette idée de la co-création. Et ça, Winnicott, il savait bien là, développer et délier ces pensées-là, puisqu'il mettait ça en œuvre dans son travail thérapeutique, etc. Faire avec. Quelque chose qui est en train de se faire, pour dire le mouvement, l'action. Et que ça, c'est quand même vraiment primordial. Donc cette idée, c'est ça, faites. Faites avec vos enfants. Faites ce que vous pouvez, quoi, en gros. Humblement, c'est-à-dire que bien entendu, vous allez vous tromper. Bien entendu, ça ne va pas être parfait. Vous savez, on reprenait cette expression de Winnicott, hein, on a dit la mère suffisamment bonne, la good enough mother. Et donc, on reprenait ce terme-là. En fait, ça ne veut pas dire exactement là. Hein. Ça veut se dire tout juste potable, quoi. Mais à peine acceptable. C'est-à-dire qu'en gros, avec des défauts, mais gros comme des valises, quoi. Et que c'est de ces défauts-là, de la valeur de ces défauts, que là où vient se loger son humanité et sa capacité à rencontrer l'autre. Parce que sinon, c'est un algorithme. C'est plus un être humain. Si je sais tout ce qu'il faut, quand il faut et comme il faut, si j'ai aucune faille qui permettent aussi à mon enfant de rencontrer, ou même de me pousser à me rencontrer. Ça devient un monde robotique, quoi. On a essayé de construire hein, des générations d'enfants comme ça, des kindergarten ou autres. Ce n'est pas exactement les développements les plus harmonieux dans la vie des enfants. Donc faites comme vous pouvez. C'est important cette autorisation-là. C'est-à-dire, en gros, ne vous prenez pas le chou, quoi. Ne vous prenez pas la tête. Essayez de vivre assez simplement et de pas faire en sorte que ces réalités-là vous bouffent le ciboulot à longueur de temps, quoi. Trouvez d'autres espaces de pensée, de rêverie, de vie. La question du couple, la question des passions personnelles, la question des intérêts. La question de la culture, c'est un vrai travail, quoi. Soyez attentif à ça. C'est ça ce qu'il dit, en gros, le père Freud, sans le dire. Et puis après, il dit, mais de toute façon, au bout du compte, les enfants, ils en prendront ce qu'ils en prendront, quoi. Bien entendu, à un moment ou à un autre, ils vous diront, vous ne leur avez pas assez donné, mal, pas bien, enfin, tout ce que vous voudrez, quoi. Mais bon, ça fait rien. C'est des choses qui se rejouent dans la vie. Après, à un moment donné, vous risquez d'être grand-parent. Peut-être. Et immanquablement, vous allez vous marrer grave. Mais vraiment, grave. Parce que vous allez vous rendre compte que tout ce qu'on vous a reproché régulièrement pour des tas de petites broutilles ou autres, c'est là, c'est leur quotidien. Et donc, bien entendu, vous n'allez pas leur taper sur l'épaule et leur dire, ben, tu vois mon fils ou tu vois ma fille, virgule, je te l'avais bien dit. Non, vous allez juste penser, voilà, Peut-être que les choses se répètent et peut-être qu'avec un peu de chance, elles ne se répètent pas exactement de la même façon. Juste un petit iota près, qui est fondamental dans l'histoire des générations. Et ça, c'est peut-être capital. Donc de se dire que ce qu'il faudrait assurément, c'est de pouvoir penser que nous allons tout faire pour avoir les enfants les plus parfaits, voire perfectibles du monde, c'est compliqué. C'est compliqué parce que nous, d'abord, on ne l'est absolument pas parfait. Que les enfants se développent beaucoup par imitation. Que nous sommes, entre guillemets, des exemples pour eux. Donc, immanquablement, si nous sommes des exemples, ils vont aussi prendre de nos imperfections. Et ça va peut-être être le sel de leur développement et de leur vie. Alors peut-être que ça va leur donner envie à eux après de faire en sorte que cette petite imperfection-là, non, ça ne soit pas pour eux. Et tant mieux. Et peut-être qu'ils vont en hériter d'autres. Ou peut-être qu'ils vont en découvrir d'autres dans les rencontres qu'ils vont faire autour d'eux et dans leur vie. Et qu'au bout du compte, les enfants qui leur naîtront seront un petit peu différents de ce que nous avons été. Mais ça, c'est aussi beaucoup en lien avec les rencontres que l'on peut faire. Vous savez, cette idée qu'on disait depuis très longtemps sur le modèle de la violence ne se transmet pas. Et cette assurance à une époque qu'on a pu développer sur cette idée que les enfants maltraités deviendraient des parents maltraitants. Une espèce d'ignominie à penser que nous sommes les marionnettes du destin et que, en fait, nous répétons ce dont nous avons hérité. Comme ça, immanquablement. Exactement. Eh bien, à côté de ça, on peut imaginer que grâce à des rencontres multiples, nous n'allons pas répéter ce que nous avons reçu, mais que nous allons pouvoir en faire quelque chose. Souvent, seul, on n'y arrive pas. Et c'est peut-être ça la grande leçon de ces questions. C'est qu'il faut être accompagné. Et que la question des autres, elle est fondamentale. Alors aujourd'hui, on est peut-être dans une société où les autres, société individualiste, beaucoup, où on est très replié sur soi, mais aussi dans le même temps où la figure de l'autre, de l'étranger, nous a peur continuellement. Et où on veut s'en protéger pour rester entre mêmes. Tous pareils, tous groupir. Mais peut-être qu'on s'enrichit beaucoup dans la rencontre avec l'autre et les autres. Et peut-être que ça permet aussi de faire toutes ces petites nuances qui vont transformer nos héritages et nos transmissions. Est-ce que vous connaissez un monsieur qui s'appelle Sioran, qui a écrit un livre qui s'appelle « L'inconvénient d'être né ». Et dans ce livre, il dit juste cette petite phrase « Ma vision de l'avenir est si précise que si j'avais des enfants, je les étranglerais sur l'heure. » Alors on l'interrogeait pour savoir « Mais pourquoi est-ce qu'il était aussi pessimiste ?» Et il répondait qu'il ne s'agissait absolument pas de pessimisme, qu'il était un homme très affable et très heureux dans la vie, mais qu'il lui arrivait parfois d'être lucide. J'aimerais avoir des enfants un jour, deux jours maximum.
Je voulais vous demander, par rapport aux deux périodes dont vous parliez au début, est-ce que entre ces deux périodes du siècle, il n'y a pas aussi... La différence ne vient-elle pas aussi du fait que, actuellement, enfin depuis un bon moment maintenant, on ose dire ce que l'on ressent alors que tel n'était pas le cas précédemment. Et peut-être trop maintenant.
On va déboucher sur l'affaire Weinstein. Je ne sais pas du tout, hein. Il y a vraiment des façons, pendant très très longtemps, d'être, de se comporter, qui étaient régies par des rituels, des règles culturelles, etc. Moi, je me souviens très bien que dans ma famille, mes grands-parents disaient, par exemple, chez nous, on ne divorce pas. C'était comme ça, quoi. C'était une réalité familiale. Donc on gardait les conflits à l'intérieur de la maison. On pouvait ne pas souffrir l'un de l'autre, mais ça fait rien. C'était comme ça, c'était pas possible. Donc il y a plein de choses qui sont écrites comme ça dans les fonctionnements, plus dans les fonctionnements et dans les représentations familiales, culturelles. Et aujourd'hui, on développe par exemple beaucoup ces idées qu'il faut permettre aux tout-petits de développer très rapidement leur langage des émotions. Donc il faut les aider à gérer leurs émotions. Il y a des tas de programmes qui sont mis en place dans la toute petite enfance pour apprendre des techniques, pour apprendre aux enfants à gérer leurs émotions. Pas des enfants qui ont 10 ou 15 ans, des enfants qui ont 2, 3 ou 5 ans. Il y a des bouquins qui vous disent que la méditation de pleine conscience, c'est bien pour les tout-petits, qu'il faut les faire yogater, qu'il faut leur apprendre à se sophroniser le soir avant de dormir, etc., etc. Donc, il y a des façons vraiment totalement différentes aujourd'hui de penser les choses par rapport à ce qui était il y a quelques années. Et la question de la libération de la parole, plus que de la réalité même des émotions ou de comment est-ce qu'on parle des émotions ou comment est-ce qu'on les ressent, c'est vraiment une des problématiques actuelles d'aujourd'hui, quoi. Mais ça, c'est aussi les nouvelles technologies qui ont permis une parole qui est totalement ouverte à l'empan d'Internet. Donc la question des mots, la question de la vérité des mots, de la force des mots. Aujourd'hui, on vous dit que, de toute façon, ce qui est important, c'est de dire les choses, de faire le buzz, et puis après, on s'en fout, que ça soit vrai ou pas vrai. Vous avez des tas de rubriques dans les journaux qui vous font des détox pour vous reprendre les propos des politiques et de tous les mensonges qu'ils nous ont apportés. Donc c'est une façon complètement différente. C'est aussi la question de la société de la transparence. Ça aussi, c'est quand même un peu compliqué, quoi. Aujourd'hui, on vous donne un téléphone portable très tôt. En gros, le rituel aujourd'hui du téléphone portable, c'est avant la fin du primaire. C'est le CM2, quoi. En prévision de l'année du collège qui va arriver, où ça va être très différent pour l'enfant. Et alors, à la fois, il faut développer son autonomie, puis dans le même temps, il faut développer son contrôle sur lui. Donc, le mot le plus utilisé dans les sondages Google, ça a été les premières paroles au téléphone, c'est « où tu es ?». Donc, quand ils ont fait des sondages pour savoir quels étaient, là, le mot qui vient d'emblée, c'est « où tu es ?». Donc, c'est un outil de géolocalisation, le téléphone portable, avec les enfants. Donc, c'est aussi un outil de lien, c'est tout ce que vous voudrez. Mais ça crée aussi des façons différentes de penser, de vivre les choses, etc. Et le nombre d'enfants qui vont en consultation pour des troubles de la séparation, c'est vraiment très très important. Des difficultés de se séparer, qui sont collés comme de la sécotine, trop attachés, qui n'arrivent pas à se séparer, autant du côté des parents que du côté des enfants. Enfin, ça, c'est vraiment le quotidien d'une consultation. Et il y a vraiment quelque chose à élaborer autour de cette question-là. Parce qu'on est quand même dans une société aussi qui prône l'individuation, la socialisation la plus rapide possible. Et qui, dans le même temps, renvoie cet écrit qui était fait sur les enfants à la clé, c'est-à-dire qui sortent le soir à 4h, 5h, et qui rentrent à la maison, qui ont la clé de la maison, et qui ont la nounou électronique, et soit leur jeu vidéo, soit la télévision, jusqu'à ce que les parents rentrent du travail. Donc on a aussi affaire avec de nouveaux environnements familiaux, dont on doit tenir compte, parce que ce n'est pas anodin tout ça. Mais je ne sais pas du tout si on peut en parler sur un mode nostalgique par rapport à avant, en disant c'était mieux avant, etc. C'est juste qu'il y a quelque chose qui se joue là actuellement, dont il va falloir pour les uns et les autres s'y adapter, trouver de nouvelles stratégies, de nouvelles façons de penser et de vivre. Donc c'est peut-être juste la question du trouble qui se pose dans notre temps. Le trouble comme étant un moment de démulsion, quoi. On n'y voit pas encore très clair, quoi. Mais comme toute chose, ça va à un moment se déposer et puis on va voir les choses différemment. Mais enfin, ce qu'on disait du narcissisme, de l'estime de soi, etc., on est quand même aussi confronté incessamment au regard des autres et aujourd'hui surmultiplié. Donc on a toujours l'impression que ce qu'on fait va être regardé, interprété, valorisé de telle ou telle façon et que ça va venir valider quelque chose de notre comportement. Moi, je me souviens, il y a des années de ça, pour l'agrément des assistantes maternelles, on avait une espèce de fiche qu'on s'était auto-créée, où on déterminait les choses qui étaient importantes dans la rencontre avec l'assistante maternelle. Et moi, j'avais fait une case où il y avait écrit « Aime les enfants ». Et chaque fois qu'une assistante maternelle me disait à la question débile « Mais pourquoi vous faites ce métier ?» parce que j'aime les enfants, je cochais la case qui voulait dire non validé. Et parce que ça, c'est quand même aussi quelque chose là qui revient, mais vraiment sur cette idée de l'amour des enfants. Hein. Enfin, c'est un truc, ça devient insupportable, quoi. Cette assurance, vous savez, ce que se disait cet auteur qui appelait ça la pédopholie. C'est le sens littéral de pédophile, hein, c'est celui qui aime les enfants. Et donc, il y a aujourd'hui une espèce de passion de l'enfant et de l'enfance qui on la retrouve partout, quoi. Que dans les pubs, dans les propositions culturelles, littéraires, les enfants sont partout aujourd'hui. Et donc, il y a quelque chose qui fait qu'on est du coup dans une nécessité à bien faire, à faire quand il faut, à faire comme il faut, etc. Donc il faut pas se tromper, quoi, hein, parce que on est sous l'œil de tout le monde, et parce que même cet œil-là, maintenant, on l'a intégré à l'intérieur de soi. On n'a plus besoin de penser qu'il y a un autre qui nous regarde, parce qu'à l'intérieur de nous-mêmes, on s'auto-regarde. C'est le modèle du consentement éclairé, quoi. C'est-à-dire que là, on est pris par quelque chose qui fait que on consent nous-mêmes à nous mettre dans cette situation-là. Et c'est là où ça devient encore plus compliqué. On a intégré des normes, des façons de faire et de penser. Il faut que ça soit comme ça. C'est, je sais pas, les stades de développement, par exemple. Il faut qu'un enfant marche à tel âge, il faut qu'il parle à tel âge, il faut que, enfin, voilà, qu'on s'inscrive dans des tas de repères qui sont de plus en plus explicites. Et ça, c'est difficile, hein, parce que les enfants, souvent, ils font aussi comme ils peuvent, quoi. Pas que les parents qui font comme ils peuvent. Donc on a aussi immanquablement à penser la fonction parentale dans une niche sociale, culturelle et temporelle donnée. Et la fonction parentale, elle n'est pas la même aujourd'hui que ce qu'elle a pu être il y a 50 ans ou il y a 200 ans. Et elle n'est sûrement pas la même ici et ailleurs dans le monde, quelques milliers de kilomètres en haut ou en bas. Donc il y a aussi ces données-là. Mais on a une espèce de réductionnisme à penser que ce que nous vivons, ça se passe partout pareil. C'est pas du tout le cas. Hein. Il y a un certain nombre de nos problématiques qui échappent complètement à nombre de populations sur la planète. Donc ça, c'est aussi quelque chose de... Nauri disait par exemple que la fonction du parent, c'est taxi. C'est-à-dire à la naissance de l'enfant, on lui ouvre le taxi, on lui dit « montez monsieur, montez madame », on ferme la porte, on fait en sorte qu'il soit le contenant que vous évoquiez, dans la sécurité bienveillante la plus totale, et on conduit son taxi jusqu'à une destination. Et à un moment donné, on est arrivé, on ouvre la porte et on dit « voilà, vous êtes à destination, monsieur, madame, au revoir, et bonne route ». Donc c'est quelque chose qui est suffisamment indéterminé pour que chacun vous puissiez penser que ça couvre tant d'années de vie, plus ou moins. Donc il y en a qui vont penser que c'est les 40 premières années de vie de leur enfant. Il y en a qui vont penser que c'est les 4 premières années de vie. Enfin, chacun fait sa petite combinaison dans sa tête. Mais dans le même temps, l'idée c'est que les enfants ont besoin d'un transport sur les chemins de l'existence. L'idée du transport, c'est intéressant, hein. Parce que c'est aussi en lien avec la question des émotions, le transport amoureux, quelque chose qui renvoie le transport, il faut que ça soit aussi collectif. Hein. Donc on est là ensemble, donc ça construit, on est là sur des routes, on traverse des espaces. Enfin bon. Et puis, dans le même temps, quand il proposait les choses comme ça, il lui était rétorqué aussitôt que oui, enfin, ça c'était des mamans qu'il évoquait. Enfin, tout ça c'est bien gentil, mais moi j'ai vraiment l'impression de faire taxi. Et elle prenait l'exemple du mercredi, par exemple, où elle mettait sa casquette de taxi le matin en se levant, et elle amenait le premier à la danse, le deuxième au jardin des arts. Après, elle allait vite rechercher le premier pour l'amener au judo. Et puis le troisième, il ne fallait pas l'oublier de l'amener à la bibliothèque parce que c'était le temps du livre et des petits. Et qu'elle rentrait à la maison le soir totalement épuisée. Et donc elle disait que ce taxi-là, il y a des moments où elle aimerait bien s'en passer, quoi. D'ailleurs, non, elle disait plus précisément qu'il y a des moments où elle aimerait bien que son conjoint fasse taxi à sa place. Mais bon, il paraît que les pères ont beaucoup changé, que maintenant ils sont nouveaux, qu'ils sont attentifs, présents, etc. Voyons le dernier sondage qui a eu lieu, c'était qu'en 20 ans, il y a eu 10 minutes de présence surajoutée des pères dans ce qu'on appelle aujourd'hui les tâches domestiques. C'est-à-dire à la fois la présence à la maison, les courses, les soins aux enfants, les cours, aller chez le dentiste, enfin, etc. quoi. Donc ça aussi, c'est un peu compliqué. Hein. La définition, les places de chacun. Qu'est-ce que c'est qu'un père? Qu'est-ce que c'est qu'une mère? Comment est-ce qu'on arrive à se partager des fonctions? La question des rôles. Enfin, tout ça est aussi hein, des questions qui sont... beaucoup, beaucoup, aujourd'hui en tout cas, reprise et réinterrogée de façon différente. Qu'est-ce qui va en sortir? Peut-être qu'on ne sait pas très bien encore comment les choses vont se mettre en place. Donc Rousseau, c'est un bonhomme qui est né en 1712 à Genève. Et en fait, sa mère va mourir dans les jours qui vont suivre sa naissance. Il a 9 jours quand elle meurt, donc... ce qui était assez commun à cette époque, hein, puisque plus de 50% des femmes mouraient des suites de couches. Donc voilà, elle décède et le petit Rousseau est là, seul au monde. Enfin, pas vraiment seul au monde, parce que quelques années auparavant, il lui était né un frère. Donc ça, c'était en 1705, le premier enfant de la famille Rousseau était né. Et puis... tout de suite après la naissance, le paternel avait dit « Bon, maintenant, il faut que j'aille exercer mon métier parce qu'à Genève, on ne trouve pas assez de boulot. » Et bien entendu, vous imaginez le métier du paternel à Genève, horlogerie. Donc, il était horloger et il décide, par les liens qu'il peut avoir, etc., de partir, de traverser les mers et d'aller à Constantinople. Et donc, il va rester à Constantinople pendant des années, où il va être l'horloger du sérail, c'est-à-dire qu'il va remettre à l'heure les pendules de Constantinople. Quoi. Et puis, à un moment donné, au bout de ces quelques années, il rentre à la maison, à Genève, pour voir sa femme. Et dans l'année de la naissance de Jean-Jacques, hein, donc, bonjour, je reviens, crac, crac, t'es toujours là, hop, le niard, 9 mois après, qui est là, hop, elle décède. Donc, papa hérite de ses 2 enfants, et puis il va s'en occuper pendant un certain nombre d'années. Enfin, un certain nombre d'années, pas beaucoup, beaucoup, parce que assez rapidement, il va se quereller avec un homme d'armes assez célèbre dans le coin. Il va devoir partir dans le comté voisin, et puis partir encore plus loin avec une interdiction de revenir sur Genève, parce que sinon, il sera mis en morceaux, jugé, emprisonné, etc. Et donc, à partir de cette époque, donc, je vous redis, 1712 ou à peu près, quand Rousseau est né, il va rester une dizaine d'années avec son père, et puis le père va disparaître. Et Rousseau dit qu'il va revoir son père 3 ou 4 fois avant que son père ne décède. Donc, en partant, le père de Rousseau confie son fils, ses fils, à leur oncle qui va les élever. Mais l'oncle n'est pas spécialement bienveillant, donc c'est vraiment un mauvais bougre, et il tabasse les gosses, il les enferme, etc. Donc du coup, le frère aîné de Rousseau se retrouve en maison de correction pour de multiples délits, et Rousseau lui-même se met à courir les routes à errer pendant des mois, voire des années, à essayer de bouffer de ce qu'on lui donne, etc., à vivre pendant quelques semaines et quelques mois chez un tel et un tel, enfin, une vie d'errance et particulièrement importante pendant toute sa préadolescence et son adolescence. Et puis à un moment donné, il tombe sur une dame du beau monde qui va s'occuper de lui, qui va à la fois être sa nourrice et sa maîtresse, et qui va appeler maman, et avec qui va rester en lien pendant un nombre important d'années. Mais ce n'est pas avec celle-là qu'il va avoir des enfants, mais c'est plutôt avec une autre qui s'appelle Thérèse Levasseur, qui a à peu près son âge, qui est lingère de son état, qui ne sait pas écrire, qui parle terriblement mal, on ne comprend rien à ce qu'elle dit en gros, qui a des manières totalement frustres et un développement, je cite Rousseau, hein, très limite. Et donc Rousseau, avec cette Thérèse Levasseur, va avoir 5 enfants. Et Rousseau dit très vite, alors c'est intéressant parce que Rousseau, il a écrit 2 livres quand même importants, à peu près la même année, hein, c'était en 1762, un livre qui s'appelle « L'Émile » et un livre qui s'appelle « Les Confessions ». Et donc, dans « Les Confessions », il raconte sa vie, il raconte tout ce que je vous dis là, ou à peu près, hein, même si, de temps en temps, il en rajoute un peu, et comme on dirait à Marseille, il mitonne, c'est-à-dire il raconte des histoires, quoi. Mais bon, bref, ce qu'il dit dans cette histoire-là, c'est que il a 5 enfants et que ces 5 enfants, tous, ils vont les placer aux enfants perdus. Vous savez, les orphelinats de l'époque, hein, les enfants, pourquoi je dis les enfants perdus, ça c'est Peter Pan, les enfants troubés. C'est pas la même chose, les enfants perdus et les enfants trouvés. Donc, les enfants sont placés aux enfants trouvés. Alors, il explique ça de façon très formelle, Rousseau, il dit, de toute façon, on n'avait pas de fric, c'était pas possible, j'aurais pas pu leur apporter de subsistance et tout ce dont ils pourraient avoir besoin. Donc, il valait mieux que je les mette dans une institution dont je sais qu'elle va subvenir à leurs besoins, à leur éducation, etc. Et puis, dans le même temps, il dit, et même, c'était protecteur pour moi, parce que je sais qu'en tant que père, j'aurais été tellement touché de voir mes enfants manquer de tout que je serais devenu gredin, c'est-à-dire que je serais allé voler, faire des délits et que, du coup, je me serais retrouvé en tôle. Donc, je les ai protégés et je me suis protégé dans le même temps. Ce qui sait quand même immanquablement le père Rousseau, c'est que plus de 80% des enfants qui sont placés aux enfants trouvés décèdent dans leur première année. Parce que les conditions de vie dans ce type d'orphelinat et d'institution étaient terribles. Donc, c'est quand même pas anodin. Donc, il raconte tout ça dans les confessions. Et puis, dans le même temps, il écrit un autre livre qui s'appelle « L'Émile ». Traité d'éducation. Et dans ce livre, il vous dit des choses qui aujourd'hui sont reprises à longueur de temps par tous les théoriciens, d'une certaine façon, de l'éducation libre, c'est-à-dire Montessori, Freinet, un certain nombre aujourd'hui de grands redécouvreurs de ce travail de Rousseau. Et il est au plus près, hein, de la réalité de ce qu'est le développement d'un enfant. Il dit, par exemple, ce qu'on disait tout à l'heure, enfin, il ne faut pas trop leur dire des mauvaises choses, il faut pouvoir les encourager, il faut être derrière eux, il faut être patient, attentif. Et il écrit le premier tome de l'Émile qui concerne exclusivement le développement de l'enfant de la naissance jusqu'à 2 ans. Donc il remplit 300 pages sur comment on doit s'occuper des enfants de la naissance à 2 ans. Et dans le même temps, il écrit les confessions où il raconte ses enfants abandonnés, ses difficultés, sa femme inculte, etc. C'est le même. Peut-être que la seule leçon, hein, donc, c'est quoi ? C'est un enfant qui a été orphelin, placé, valdingué à travers toutes les campagnes et toutes les villes, qui a été malade, parce que pendant longtemps, il a été malade et on a pu aujourd'hui trouver qu'il avait une maladie génétique rare, qui fait qu'elle avait des conséquences importantes sur à la fois son développement somatique et psychologique. Il mitonnait à longueur de temps, donc il racontait des tas d'histoires sur ce qu'il faisait et ce qu'il ne faisait pas. Et puis, il était un brin parano vers la fin de sa vie, où il était complètement attentif à tout et persuadé que tout le monde lui en voulait. Et donc, ce Rousseau-là, il a écrit ce qui, encore aujourd'hui, correspond à un précis, le plus extraordinaire d'éducation et de développement des enfants. Et dans le même temps, il a eu la vie que je viens de vous rapporter. Alors, sur le modèle de la palissade, vous savez, hein, ou des chutes de la Bruyère ou de la Fontaine, la seule chose que vous pouvez en conclure, c'est bien entendu qu'on réussit toujours mieux les enfants des autres. C'est bien entendu qu'on est meilleur parent quand on n'a pas d'enfants. Et c'est bien entendu qu'il y a une différence notable entre tout ce que l'on peut professer et ce que l'on peut exercer dans son quotidien. Donc j'ai professé à l'instant pendant une heure et demie. Eh bien, dites-vous bien que tout cela est peut-être à des milliers de kilomètres de ce que dans mon petit quotidien, je pratique avec mes enfants. Et par exemple, j'ai passé l'internat à un moment donné et je rédigeais ma thèse. Et j'étais à la Réunion, j'avais un petit garçon qui avait 9 mois. Et j'écrivais au crayon. Il n'y avait pas machin, internet et tout ça, quoi. Et régulièrement, quand je rentrais dans mon bureau, mes crayons avaient la mine pétée. Et je disais, oh, c'est quoi ce truc? Je taillais, j'avais toujours mon petit taille-crayon, je taillais, je reprenais mon travail. Ça a duré quelques mois avant que je me rende compte que mon fils, de 9 mois, en avait sûrement totalement marre de voir son père plus à sa table de travail qu'auprès de lui et passait son temps consciencieusement tous les matins au réveil à me péter les mines des crayons. Donc Winnicott disait au maire, n'écoutez pas trop les professionnels parce que vous savez, vous avez en vous une connaissance intime de la réalité de ce qu'est votre enfant. Ne laissez pas les professionnels se mettre entre vous et votre enfant. Ben, vous voyez, je suis un contre-exemple notable de ce que disait Winnicott. Parce que être parent, des fois, ça vous empêche de savoir. Et que les professionnels, c'est pas mal quand ils vous aident à comprendre ce que vous n'avez pas voulu savoir. Et je passe donc sur les parents professionnels qui sont la pire espèce que la Terre ait pu connaître. C'est dommage pour les enfants. Je vous remercie de votre attention.